Et il me dit, oh là, mais tu me donnes envie de vomir. Et il fait, et il fait semblant comme ça qu'il vomit dans son assiette.
Je suis Émilie Lestari et vous écoutez Bouffon. Cet épisode aborde le sujet des agressions et violences sexuelles. Assurez-vous de l'écouter dans de bonnes conditions et prenez soin de vous. Dans l'imaginaire collectif de la cuisine, les femmes sont partout. C'est la figure de la maman au fourneau, celle de la mère nourricière, Maïté, l'icône de la cuisine à la télévision, dont l'émission hyper populaire était diffusée sur tous les postes des foyers dans les années 90. Ce sont aussi toutes ces mères et ces grands-mères de l'ombre que les grands chefs de la scène culinaire médiatique citent de temps en temps en interview comme gage d'authenticité et hommage au terroir, car c'est si souvent d'elles qu'ils tiennent leurs recettes. En cuisine, les femmes sont donc partout. Enfin, lorsqu'on parle de la cuisine en tant que pièce à vivre. Car dès qu'il s'agit de cuisine professionnelle et surtout de grande cuisine, là, tout à coup, ce sont les hommes qui tiennent le haut du pavé. Il n'y a pas si longtemps encore, le chef britannique Tom Kerridge, 2 étoiles au Michelin, estimait à voix haute que les femmes n'ont pas dans le bide ce qu'il faut pour être chef et que c'est probablement la raison pour laquelle il y en a si peu. Nous offrant ainsi un exemple du sexisme ordinaire rampant sur le carrelage des cuisines. Mais alors, où sont les femmes? Sur le papier, le secteur est pourtant paritaire. Mais si l'on regarde dans le détail, ça se complique. Les chiffres montrent que les femmes sont souvent en salle et accèdent moins facilement aux postes à haute responsabilité en cuisine, tels que chef de rang, chef de partie, sous-chef et chef. D'ailleurs, sur les 630 restaurants sélectionnés par le Michelin, on ne compte que 33 femmes, soit à peine 5% des chefs étoilés. Les femmes semblent donc largement écartées du milieu. Rappelons d'abord que les modalités selon lesquelles les métiers de la restauration s'exercent favorisent un terreau particulièrement propice aux dérives. Et cela pour les femmes comme les hommes. Stress quasi permanent en cuisine, discipline de brigade réglée comme du papier à musique, indéboulonnable respect de la hiérarchie avec le sacro-saint modèle du chef, horaires de travail si denses que la vie privée s'y évanouit souvent, la cocotte minute siffle et menace d'exploser. D'ailleurs, dans le secteur de l'hôtellerie et de la restauration, le harcèlement moral et sexuel prospère 2 fois plus que la moyenne tout secteur confondu, selon une étude sur les rapports sociaux au travail sortie en 2016. Mais pour les femmes, dans ce contexte, le sexisme est un facteur qui aggrave les violences. Heureusement, l'omerta se brise progressivement. Ironiquement, les langues semblent se délier là où règne habituellement l'ego des chefs starisés, Instagram. Sur le réseau social devenu vitrine de tous les restaurants, le compte Je dis non chef compile depuis l'été 2019 des témoignages de violences en cuisine, rassemblés et mis en forme par Camille Aumont-Carnel, une ancienne de Ferrandi. Cette initiative a largement contribué à lancer des discussions sur les violences en cuisine. Dans cet épisode de Bouffon, on a décidé de donner la parole à des femmes qui ont des choses à nous dire sur le sexisme en cuisine et sur l'impact de celui-ci sur leur carrière. Vous entendrez donc Marion Guetlé du Café Mirabel, Caroline qui a souhaité rester anonyme et Zelika Dinga de Caro Diario. La première a vécu une situation de harcèlement moral, la deuxième a subi une agression sexuelle et la troisième nous parle de la violence inhérente au métier. 3 femmes et 3 récits qui dépeignent le quotidien de nombreuses femmes en cuisine aujourd'hui en France et comment elles ont dû revoir, adapter et parfois mettre de côté leurs ambitions. Commençons par le témoignage de Marion Guetlé. Des attaques sur son physique, des commentaires sur sa vie sexuelle, une constante campagne de dénigrement, c'est ce que cette femme a subi dans les cuisines d'un grand restaurant parisien, parmi les tables gastronomiques les plus courues du monde. Depuis, Marion Guetlé a pris son indépendance et ouvert le Café Mirabel à Paris. Être sa propre chef, c'est l'assurance de ne plus avoir à subir le comportement toxique d'un supérieur. Celle qui est née dans une famille de restaurateurs alsaciens avait été prévenue. Dans ce milieu, les insultes fusent, c'est une fatalité, il faut avoir le cuir solide. Mais au lieu de considérer cette violence comme inhérente au métier, Marion fait partie de cette jeune génération qui en est désormais convaincue. Les choses doivent changer. «
Il y a un boulot où vraiment je suis partie parce que je supportais plus le chef. Et pourtant, moi, j'étais arrivée à Paris pour bosser là. Je suis partie de ma campagne alsacienne parce que je me suis dit, ben, Paris, c'est le cœur de la gastronomie. Si je veux faire mes armes, il faut que je monte à Paris, un peu comme dans Ratatouille. Je veux dire, c'est le rêve de tous les cuisiniers qui sont jeunes. On va monter à Paris, on va découvrir un nouveau monde, un niveau qui est plus élevé qu'ailleurs. Et c'est vrai, c'est le cas. Le niveau est plus élevé. Il y a énormément de cuisiniers, de cuisines différentes. J'avais pas l'intention d'avoir une vie privée, d'avoir une vie sociale. Je m'en fichais. Je suis partie juste pour bosser. Et je suis arrivée dans ce restaurant où je me prenais des réflexions tous les jours. Ah, mais tes mains, elles sont vraiment trop moches. Oh, mais dégage avec ton cul de vieille. Oh, mais regarde, là, c'est quoi que tu portes, là, sous ta veste? C'est quoi, ça? C'est des brassières de sport? Mais tu crois que t'es sexy avec des brassières de sport? Non.
C'est du harcèlement, là, en fait. Clairement, ça a un mot et ça s'appelle le harcèlement moral.
Ouais, c'est ça. Et en fait, quand il me disait, c'est moche, moi, je lui disais, mais... D'un autre côté, je suis là pour bosser, pas pour faire un défilé de mode. Donc, à un moment donné, voilà. Et puis, j'ai rencontré mon futur mari dans ce restaurant. Donc, il y a quand même 6 ans. Et on travaillait ensemble. Et puis, quand le chef a appris qu'on était ensemble, le lendemain, on était au repas du perso. Et puis, on était assez nombreux, hein, une bonne quinzaine au moins. Puis lui, il était d'un côté de la table et moi, j'étais de l'autre côté de la table. Et puis, il était quand même assis avec le responsable de salle, avec le chef de la cuisine d'en bas. Enfin, on était assez nombreux. Puis moi, je mangeais avec les apprentis. Mais j'avais un CDI. J'étais pas stagiaire. J'avais un vrai poste dans ce restaurant. Et puis, il me dit, oh, Gutlé, t'es vraiment trop moche. Alors moi, je le regarde, je dis, ouais, ok, chef. Il me dit, ah non, franchement, t'es dégueulasse. Hein. Je dis, ouais, ok. Et il me dit, oh là, mais tu me donnes envie de vomir. Et il fait, bah, et il fait semblant comme ça qu'il vomit dans son assiette. Et je l'ai regardé et je me rappelle qu'il y avait une apprentie toute jeune en face de moi qui me dit, oh là là, mais il est toujours comme ça avec vous parce qu'elle bossait pas au même étage que moi. Et je lui dis, ouais, reste à ton étage, tu seras mieux. Et franchement, mais je me disais, et dans ma tête, je me disais, mais t'es vraiment qu'un gros con, mec. Parce que si tu penses vraiment que ça me blesse, que tu me dises que je suis moche, c'était juste... Et c'était tout le temps comme ça. Pareil, le lendemain, je sors du vestiaire, je dépose ma veste de cuisine dans le sac du linge sale. Je sors du vestiaire en débardeur, soit, mais c'était pas un débardeur moulant, c'était quelque chose d'assez ample, et en jean, et en même temps, était-ce vraiment intelligent de mettre le sac de linge sale en plein milieu de la cuisine? Est-ce qu'on pouvait pas mettre un sac de linge sale dans les vestiaires? Comme ça, on n'a pas besoin de sortir, de retourner en cuisine, une fois qu'on est changé, pour déposer notre linge, nos vestes sales, on peut les laisser directement dans le vestiaire, s'habiller, prendre nos affaires et partir. Donc, bon, rien que là, hein, c'est pas comme si c'était de ma faute, et c'est pas comme si c'était moi qui avais voulu m'exhiber. Je suis juste sortie, et en fait, le chef était en train de briefer quelques cuisiniers de l'étage du dessous, et il montre ma poitrine, et il s'approche, mais à 5 cm de ma poitrine, et puis il me dit « Oh là, cache-moi ça, c'est vraiment trop moche !» Je dis « Ok, je vais prendre mes affaires, je dis au revoir. » Et il me dit, il me tend la main pour me serrer la main, pour me souhaiter un bon week-end. Donc moi, je lui serre la main. Et puis, il me tire le bras, puis il colle sa joue contre ma joue. Et je lui dis, qu'est-ce qu'il y a, chef? Et il me dit, oh, ça va, Gutlé, qu'est-ce que t'as? Pourquoi tu fais la gueule? Et je lui dis, ah non, je fais pas la gueule. Il me dit, si, c'est bon, c'est quoi ton problème? Je lui dis, non, mais... Moi, j'ai pas de problème et tout. Puis il me dit, si, je vois bien, là, t'as un problème. Je lui dis, ouais, je trouve que vous vous acharnez un petit peu sur mon physique. Et il a vrillé, a pété un plomb. Et puis après, il m'adressait plus la parole. Donc pour le boulot, c'était juste un enfer parce que faut que je demande confirmation, faut que je puisse passer pendant le service. Donc voilà, c'était juste un enfer. Et puis tout était comme ça. Et puis du coup, effectivement, il a appris que j'étais avec mon fiancé. Donc il n'était évidemment pas mon fiancé à l'époque. Et puis alors il lui disait... Quand elle te suce à l'aval, elle disait « Ouais, est-ce qu'elle est chaude et tout ?» Et à un moment donné, quand j'étais dans cette boîte, justement, j'ai eu un déclic. Et je me suis dit « Mais Marion, t'as plus 15 ans, en fait. T'as déjà eu des expériences dans d'autres restaurants. Donc, tu commences à connaître ton métier. T'es pas un génie, tu seras jamais un génie, d'accord, mais tu commences à savoir travailler. Donc, t'as plus 15 ans, t'as plus à accepter ces réflexions journalières sur ton physique, ton machin, ton mec ceci, tes fesses ceci, tes cheveux cela. Et en fait, quand j'étais plus jeune, j'acceptais parce que je me disais, ok, on me dit des trucs comme ça, mais en même temps, faut que j'apprenne, j'ai envie. Alors, pas dans toutes les boîtes, mais c'est arrivé quand même très régulièrement et où je me disais, oui, ben ferme là et reste là parce que t'as envie d'apprendre. Et j'apprenais des trucs et sur le point de vue professionnel. Et donc, j'acceptais tout ça. Et j'ai eu un déclic, là, quand j'étais dans cette boîte. Et je me suis dit, non, mais merci, mais non, merci, en fait. J'ai 20 ans, je suis plus une gamine. Il me parle, on est à mille lieues de l'acceptable, là. Donc, c'est juste plus possible. Donc, j'ai posé ma démission et je me suis barrée. Mais voilà, j'ai fait 3 mois dans cette boîte et j'ai dit, ouais, non, ça va aller, en fait. Merci beaucoup. Mais si vous voulez insulter des gens, très peu pour moi, quoi.
Comment tu décrirais ce déclic ? Comment t'es passé d'accepter cette situation à te dire « ça suffit, je mérite mieux, je n'ai pas à m'infliger ça ».
En fait, j'arrêtais pas de me dire, parce que comme dit, j'ai toute ma famille qui est dans la restauration, et ils étaient tellement fiers que j'aille travailler dans ce restaurant qui est hyper renommé. Ils étaient hyper fiers. Mon grand-père à l'époque en Alsace, il a eu aussi une étoile Michelin, côtoyer ce milieu de la haute gastronomie, entre guillemets. Et il était hyper fier aussi que j'aille travailler dans ce restaurant. Et je me disais, je peux pas leur dire que je viens à peine d'arriver et que je quitte déjà. Alors que j'ai tout plaqué pour venir travailler chez eux. J'avais une chambre de bonne. J'avais un minuscule appartement de 12 mètres carrés qui était collé au restaurant parce que je voulais, pouvoir dormir le plus possible en dehors du boulot pour toujours être en forme. Je m'étais consacrée que qu'à ça. Et voilà, c'est des choses... Mais c'est à un moment donné... C'est vrai que moi, je m'étais tellement formatée à l'accepter. C'est-à-dire que j'avais mis en place un espèce de procédé personnel où, en fait, dès que je me prenais des réflexions, je mettais mon cerveau en mode off parce que j'avais pas envie que ça me touche, j'avais pas envie que ça m'atteigne, j'avais pas envie que ça me blesse. Et donc, dès que je savais que ça n'avait rien à voir avec le boulot, je me mettais en mode off.
En fait, j'ai l'impression que dans tous les cas, c'est ta résilience qui parlait. C'est que sur le moment, tu te mangeais toutes ces remarques, mais t'avais décidé de fermer tes oreilles parce que ton but, c'était d'être là pour te faire ton expérience dans ce grand restaurant. Mais à un moment, toujours avec cette même résilience, t'as fini par décider que, au fond, rien ne t'obligeait à rester là, puisqu'il y a rien qui justifie de se manger un tel harcèlement, même pour une super expérience professionnelle.
C'est exactement ça, en fait. Effectivement, voilà, là, ça a été la goutte d'eau où je me suis dit, maintenant, c'est terminé, plus jamais on l'accepte, plus jamais j'accepte ça. Alors qu'avant, mais parce que j'avais vécu trop d'expériences comme ça quand j'étais un peu plus jeune, je venais d'avoir 18 ans. Ça faisait un an et demi que j'étais avec mon petit copain et je suis tombée enceinte de mon petit copain. Et j'ai avorté. Et le lendemain de mon avortement, j'ai commencé un stage dans un restaurant aussi étoilé, gastro, où on faisait pas mal d'heures. Donc j'étais pas payée, hein, c'était un stage. Je touchais peanuts. Je travaillais 70 heures par semaine. Mais j'apprenais énormément de choses, ça me sert encore, j'ai plein de recettes que j'utilise encore aujourd'hui, j'apprenais plein de choses. Mais j'avais un chef qui, pareil, me faisait des réflexions, c'était moins journalière, mais je veux dire, moi je venais d'avorter, et il me disait, qu'est-ce que t'as, on t'a trop baisé hier soir, c'est pour ça que t'es fatiguée. Enfin, je venais d'avoir 18 ans, quoi. Ben non, en fait.
Des commentaires sur ta vie sexuelle. Et dans l'autre cas que tu nous décrivais, des commentaires sur ton physique. Là, on est typiquement sur du sexisme, une violence verbale associée à du sexisme, puisque les commentaires sur le physique des femmes et se croire permis de commenter leur vie sexuelle, c'est exactement l'expression d'une misogynie.
Oui, bien sûr, mais c'est en plus, je pense que là, pour le coup, dans ce cas précis du stage où je venais de fêter mes 18 ans, il y a quand même ces choses à prendre en compte, c'est que je venais à peine de fêter mes 18 ans, donc j'étais jeune. J'étais en stage, donc j'étais dans le cadre de ma formation. J'étais pas payée. Je travaillais dur. On ne se permet jamais de dire des choses comme ça, hein, on est bien d'accord. Mais à des stagiaires qui sont même pas payés, qui viennent pour être formés, on leur dit qu'est-ce qu'il y a ? C'est qui te... Ah, c'est qui ? C'est lui qui te baise ? Ou c'est lui ? Hein ? C'est qui t'a trop baisé hier soir pour que tu sois fatiguée ? Non mais.
Est-ce que dans le milieu de la restauration, entre femmes, vous communiquez entre vous ? Je pense au milieu du mannequinat, par exemple, avec les pages Facebook des modèles qui se préviennent quand un photographe est problématique. Ou pareil dans le cinéma, avec les réalisateurs qui sont aussi des agresseurs.
Moi, c'est sûr que si je rencontre une fille qui me dit « voilà, je vais aller travailler là-bas, j'ai travaillé que ça s'est mal passé », je vais clairement lui dire « ben non, on n'y va pas ». C'est malheureusement tellement fréquent que c'est pas possible de, on sait pas, on connaît pas toutes les cuisines où ça se passe mal et il y a des cuisines où ça se passe bien. Moi j'ai fait un stage dans un 3 étoiles Michelin en Alsace où c'était du pur bonheur, où jamais j'ai vu un manque de respect, que ce soit envers un cuisinier, envers une fille, envers un garçon, envers un stagiaire ou un chef de partie. Enfin voilà, et ils avaient 3 étoiles Michelin. Je veux dire, ça peut bien se passer. C'est ça qui est triste, en fait. C'est que ça peut bien se passer. Et que les mecs qui font ça, ils ont l'impression qu'ils sont obligés de bosser dans des ambiances comme ça de merde. Ils sont obligés d'instaurer un climat de peur, de hiérarchie hyper abusive pour que le boulot soit fait, ou je sais pas, pour que les règles soient respectées, ou pour que les ordres soient bien appliqués. Ben non, en fait, il y a plein d'endroits où ça se passe bien. Et c'est possible que ça se passe bien, mais ce monde de la restauration est tellement petit que ils se disent si tu te casses ou si tu me la mets à l'envers ou machin, je les appelle, les autres chefs, je les préviens, on va te fermer des portes ici, on va te fermer des portes là. Mais j'ai tellement bien fait de me mettre à mon compte et d'arrêter de fréquenter en fait des cuisiniers comme ça. Et ma mère me disait toujours, oui, les cuisiniers, ils ont un niveau vraiment de bas étage, parce qu'elle a traîné dans les cuisines toute sa jeunesse, toute sa vie, elle a traîné dans la... Et elle me disait, oui, les cuisiniers, ils sont cons, ils ont pas inventé le fil à couper le beurre. Et moi, je lui disais tout le temps, mais tu te rends compte à quel point t'es discriminante de dire des choses comme ça. Mais en fait, elle disait ça dans le sens où, effectivement, dans la plupart des cuisines, il y a des blagues comme ça toute la journée. Il y a des...
Est-ce que tu as un avis sur ce qu'on devrait faire pour que les choses changent, pour qu'il y ait moins de violence en cuisine, pour que les femmes soient plus protégées ?
Les journalistes qui continuent d'encenser des chefs en sachant pertinemment ce qui se passe, parce qu'il y a énormément de journalistes qui savent très bien ce qui se passe dans certaines cuisines, il y a une espèce d'élite de chefs, notamment parisiens, intouchables, où on a l'impression qu'ils tomberont jamais de leur piédestal, quoi qu'ils fassent. Surtout, il y a un gros travail à faire au niveau de l'école hôtelière. C'est-à-dire que faut arrêter... Parce que moi, à l'école hôtelière, on nous traitait comme si on était dans une cuisine d'un grand restaurant. C'est-à-dire que moi, j'avais un petit copain quand j'étais à l'école hôtelière. Quand j'étais en seconde, je venais d'arriver à l'école. J'avais un petit copain... On s'était fait deux fois dans les couloirs, on s'était fait choper en train de se faire un petit bisou de rien du tout, c'était interdit. Et un jour, en arrivant à l'internat, j'ai un autre copain, un ami, qui me fait une accolade. La directrice le voit, savait que j'avais un petit copain, me convoque dans son bureau, me dit « Mademoiselle Guetley, vous comptez vous taper tous les mecs du lycée ou vous allez vous arrêter là ?» J'avais 15 ans, hein, j'étais quand même vierge. Et puis, elle m'a fait la misère et elle m'a dit, à la fin de l'entretien, elle me dit « Vous savez, Mademoiselle Guetley, Je vais vous dire quelque chose. Les femmes qu'on épouse sont pas les mêmes que les femmes avec qui on couche. Méditez là-dessus, elle m'a dit. J'avais 15 ans, j'étais à l'école hôtelière. Enfin, voilà, il y a peut-être un travail à faire dans les écoles hôtelières déjà. Pour sensibiliser et les professeurs et la direction en disant ben non, en fait les élèves sont pas obligés de tout accepter, il faut accepter qu'il faut travailler dur. Oui, on va pas leur dire oui, c'est grave si tu fais 40 heures et pas 35 comme c'est marqué dans ton contrat. Ben non, faut expliquer à un jeune que si tu veux faire de la restauration, tu peux faire de la restauration en 35 heures ou en 39 heures, respecter les horaires de ton contrat de travail. Dans ce cas-là, il va falloir aller travailler surtout dans des groupes ou dans des choses comme ça, parce qu'il y a énormément de restaurants qui sont pas capables de te faire faire pile des 35 heures, pile des 39 heures. C'est comme ça.
Marion regrette l'absence d'encadrement et de soutien de la part de son école. D'ailleurs, quand la directrice de l'école l'a convoqué, son copain et elle, parce qu'ils s'étaient embrassés dans les couloirs, il n'y a que Marion qui a été punie à la plonge, pas lui. Ce qui est frappant dans le témoignage de Marion, c'est le sentiment d'impunité de cet homme qui s'est senti assez à l'aise pour l'insulter à répétition devant tout le monde. Ce sentiment de toute puissance, c'est le même qui peut en amener certains à devenir des agresseurs sexuels. Caroline, notre deuxième témoignage, a été victime de l'un de ceux-là. Elle n'a que 20 ans en 2014 lorsqu'elle est agressée sexuellement par le sous-chef, autrement dit le second de cuisine, du restaurant de l'hôtel de luxe dans lequel elle était stagiaire à Paris. Caroline, dont on change le prénom ici, a accepté de nous raconter son histoire parce qu'elle souhaite que les choses changent. Ce qu'elle a vécu est tristement commun, une agression sexuelle sous les néons blancs d'une cuisine. Ce qui est moins commun en revanche, c'est que Caroline a porté plainte et que sa plainte a abouti. Selon les chiffres officiels du Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes, une femme sur cinq a été victime de harcèlement sexuel au cours de sa vie professionnelle. 5% des cas seulement sont portés devant la justice. Caroline nous a envoyé le procès-verbal et les documents liés à l'affaire, qui a été jugé au tribunal correctionnel de Paris l'année suivante, en 2015. On y dit que ce soir-là, elle vient de finir de préparer une marinade de saumon. Il est 21h30 quand son supérieur lui demande de descendre faire le ménage. Ils ne sont que deux dans la cuisine du bas, alors Paul, c'est comme ça que nous l'appellerons ici, s'approche d'elle, la taquine et joue à défaire le bouton de sa veste de cuisine. Caroline lui demande d'arrêter et remet en place son bouton. Mais il recommencera au total une vingtaine de fois et finira même par plonger sa main sous sa veste. Plus tard dans la soirée, il cherchera même à lui dégrafer son soutien-gorge.
Sur le moment, j'ai pas réalisé, puis j'étais tellement sous le choc qu'on se dit c'est pas possible. Et le lendemain, j'en parle à un autre chef, par chance, qui est toujours un ami d'ailleurs. Et il me dit, mais attends, ça va pas du tout cette histoire, tu réalises que tu racontes. Et donc j'ai de la chance parce que ça a été remonté directement le lendemain à la hiérarchie. Et j'ai appris que je n'étais pas la seule. On a réussi à contacter d'autres filles. Et j'ai appris qu'en 6 à 8 mois, j'étais la 5e ou 6e stagiaire à qui ça arrivait. Que les ressources humaines de l'hôtel étaient au courant, mais qu'ils n'avaient jamais rien fait. Donc j'ai été... Dans cet ordre-là, ça a été un peu le choc, en fait. Ça aurait pu être évité.
Ça a dû être hyper important pour toi, ce moment où tu en parles donc à ce collègue qui t'informe que tu n'es pas la seule à qui c'est arrivé et qui surtout te montre qu'il est surpris et que donc ce qui s'est passé est purement inacceptable.
Bah, lui, il ne savait pas, en fait, encore. C'est quand je n'ai parlé à d'autres collègues qui m'ont dit que je n'étais pas la seule. Mais lui, il savait pas encore. Enfin, pour lui, j'étais la première. C'est quand j'en ai parlé à d'autres collègues. Lui faisait partie. En fait, il y avait 4 chefs dans l'établissement où je travaillais. Donc lui, il savait pas encore. Mais du coup, ouais, ça a été un choc. J'ai contacté l'autre personne directement qui venait encore faire des extras. Et il faut savoir, à chaque fois qu'il disait bonjour, il lui mettait une main sur le sein. Enfin bref, il avait un côté un peu manipulateur. Donc elle se disait, non, mais c'est de ma faute, c'est parce que je suis trop gentille. Et quand c'est arrivé, elle venait d'être genre à l'instant où je crois qu'elle était elle avait 18 ans, donc c'était limite. Et donc en fait, on allait au commissariat. Moi, j'ai dit, je veux juste déposer une main courante pour que lui ne reproduise plus jamais ses faits. À l'époque, je me disais, ça va, j'ai pas envie de lui ruiner sa carrière à ce mec-là et sa vie. Et du coup, on a déposé toutes les deux des mains courantes. Et le parquet nous a demandé de poursuivre et de porter plainte, car dans tous les cas, même si on ne portait pas plainte, il y aurait poursuite judiciaire. Au commissariat, on m'a dit, de toute façon, vu que ça arrive dans un hôtel 5 étoiles, qu'on est dans le premier arrondissement de Paris, que vous êtes stagiaire, on est obligé de le faire. Ça arriverait à Barbès, on n'aurait pas pris votre plainte au sérieux.
Ah oui, on t'a clairement dit à ce moment-là, oui, là, on va suivre l'affaire parce qu'on est dans un établissement de luxe, en quelque sorte.
Exactement, que j'avais que j'avais une éducation, que je sortais d'une école privée. L'autre personne sortait aussi d'une école privée très chère. Et ils se sont fait, on ne peut pas laisser passer ça, parce que ça va faire des scandales. Et puis, je crois que le père de mon ami était aussi journaliste. Du coup, ils ont dit, on va juste clore l'affaire et on ne va pas en parler, en fait. Et du coup, c'est ce qu'ils ont fait. Mais on me l'a clairement dit, ouais.
Oui, ce que tu rapportes là, ça prouve comme pour une histoire donnée, il y en a 10 autres qui ne sont pas traitées parce qu'elles ont lieu dans des cuisines moins prestigieuses.
Voilà, ou parce qu'elles n'ont pas le nom de famille, ou parce qu'il n'y a pas l'éducation derrière, ou parce que la personne... les couleurs et tout ça. Vraiment, oui, on me l'a dit. Enfin...
Tu racontes aussi, lors de ce dépôt de plainte, qu'une discussion avec une personne du poste viande t'a aussi permis de comprendre un peu mieux aussi ce qui se passait, parce que cette personne t'a dit, une autre femme, qu'elle se faisait souvent chatouiller par cette personne. Et elle est venue donc te voir pour te dire que ce qu'il avait fait était inadmissible, pour te réconforter aussi, parce que c'était un moment où tu pleurais beaucoup suite à ce qui s'est passé. Est-ce que donc tu penses avoir été soutenue par tes collègues et aussi par ta hiérarchie ?
Oui et non, en fait. J'ai été soutenue par quelques personnes. J'ai été soutenue par les personnes qui travaillaient dans le labo de pâtisserie, parce qu'à l'époque, j'étais en cuisine. J'ai été soutenue par le chef à qui je me suis confiée, clairement, parce qu'aujourd'hui, c'est un ami. Autrement, je ne me suis pas sentie soutenue plus que ça. C'était une hiérarchie assez particulière, donc il y avait un grand chef. Donc qui était le chef administratif et tout ça. Et ensuite, il y avait le chef adjoint. Et il y avait deux seconds, en quelque sorte. Donc moi, c'est contre un des seconds que j'ai porté plainte qui s'appelait chef. Et donc, en fait, le grand chef, c'était la personne contre qui j'ai porté plainte, se sont protégés. Donc à la base, moi, j'arrêtais l'école et je devais signer un CDI derrière dans cet établissement. Et donc, un jour, je vois le chef planning et je lui fais « Mais pourquoi mon planning s'arrête au 20 août ?» Et on me dit, il me dit « Ah bah, je sais pas, parce que ton stage s'arrête là. » Je lui dis « Mais vous avez dit que vous m'embauchez. » « Ah bah non, j'ai changé d'avis. » Et donc là, je suis bon, d'accord. Sachant qu'ils avaient vraiment besoin de personnel, parce que sur le poste où j'étais, il fallait au moins 3 personnes. Et il n'y avait que des extras, et c'est moi qui avais formé tout le monde. Au final, je n'avais pas fait de poste tournant, j'avais travaillé qu'aux entrées, alors que j'aurais dû aller aussi en pâtisserie, en cuisine et tout. Et donc, j'en parle à l'autre chef, qui est le chef adjoint. Et il me dit « Non, mais sache, Caroline, que si tu veux rester bosser, tu bosses et tout ça. Tu bosses hyper bien, tu resteras. » Ok. Et puis, je me suis dit « Enfin, je ne vais pas dans une cuisine, en fait, où le grand patron ne veut pas de moi, en fait, parce que déjà, il va me le faire tout le temps. » J'ai que des inconvénients, je vois pas l'intérêt de rester là. Donc, du coup, j'ai préféré mettre fin à arrêter le stage. Sachant que du jour où c'est arrivé l'agression sexuelle, à la fin de mon stage, j'ai jamais pris un seul jour. J'avais le droit à 20 jours d'arrêt, je crois. Je n'ai pris aucun. J'ai travaillé tous les jours parce que je savais que ça les mettrait dans l'embarras si je venais pas. Et à la fin, j'ai juste été voir les ressources humaines en disant que je voulais aller en pâtisserie pour voilà, parce que c'était ma passion. Et donc, j'ai dû négocier, et voilà, mais ça a été très compliqué. Parce que je me souviens, à la base, au début, je faisais mes horaires, c'était 7h, 14h ou 14h30. Après, j'allais en pâtisserie tout l'après-midi pendant 2-3 heures. Et le chef, du jour au lendemain, quand j'ai porté plainte, il m'a dit « Non, tu vas plus en pâtisserie, je rentre chez toi direct. » Alors que j'embêtais personne, en fait, je voulais juste apprendre en plus. Donc, j'ai vu une grosse différence au niveau de l'entreprise qui voulait me freiner tout, en fait, en me disant « T'es plus la bienvenue. » Et ça a été assez compliqué. Et à côté, il y a une autre fois où il y a un truc qui m'a vraiment choquée. J'étais donc du coup dans le labo en pâtisserie. Et donc, cette personne contre qui j'ai porté plainte vient chercher ses affaires parce qu'il était licencié pour faute grave. Et donc, moi j'étais là. Et donc, j'étais en pâtisserie avec un grand bandeau. Fais attention, Paul, il est là-haut. Il vient chercher ses affaires. Et je fais quoi ? Et enfin, du coup, je me retrouve à m'écrouler en larmes et tout ça, et vraiment en colère, quoi. Et je dis, mais enfin, il aurait pas pu venir chercher ses affaires sur un jour où je bossais pas. Les ressources humaines, elles le laissent traverser l'hôtel comme ça. Mais enfin, d'où, en fait? Enfin, moi, j'existe, je suis un humain. Il a été licencié pour faute grave, et donc on lui permet de se balader comme ça dans l'hôtel, comme s'il avait rien fait, que c'est toujours le chef.
C'est incroyable. Ah oui, donc vraiment très très peu d'égards de la part des ressources humaines qui n'avaient qu'une chose à faire pourtant, c'était de vous éviter de vous croiser après tout ce qui s'était passé.
Du coup, j'ai réussi à pas le croiser parce qu'on m'a dit en fait. Mais ouais. Et quand j'en ai parlé lors de mon rapport de stage à la fin, ils m'ont dit « Ah bah on savait pas, désolé », alors que le jour-là, ils venaient chercher aussi ses papiers aux ressources humaines.
Heureusement qu'on t'avait prévenu et heureusement du coup que t'as pu déployer toi ta stratégie pour éviter de le croiser. Mais effectivement, ça aurait été un traumatisme de plus après toute cette affaire.
C'était un gros traumatisme parce que déjà, il faut savoir que j'ai quitté Paris et pendant un an, j'ai été incapable de mettre des robes. Une fois, je me souviens, un an plus tard, j'ai essayé de mettre une robe sans collant et je me suis retrouvée à m'écrouler en larmes. Et ma mère, elle me fait « ça va ?» Je suis « ben non, je peux plus mettre de robe ». Donc il a fallu compter un an et demi pour que je puisse remettre même plus des robes sans collant, 2 ans, je pense. Ouais, ça a été assez compliqué.
On en vient à la question que je voulais te poser sur ce que tu estimes être les conséquences de cette agression. Alors déjà, il y a ce que tu as dit auparavant, le fait que alors qu'on t'avait promis un CDI, on t'a écarté de la suite en fait de ce projet puisqu'on t'a tout simplement remercié juste après ton stage alors que tu fournissais un très bon travail. Et ensuite, il y a donc cette phrase que je lis dans le PV où tu expliques que à la base tu aimes énormément ce métier mais que ça a été difficile de ne pas se sentir respecté dès les premières expériences professionnelles dans ce secteur. Et tu expliques aussi que donc en fait, suite à cette agression, il y a eu plusieurs mois de mal-être où il a été difficile pour toi de trouver un travail et de te sentir bien dans ta peau.
Ouais, c'est très compliqué, c'est très très compliqué. Un an plus tard, du coup, j'ai fait ma formation, je suis partie en pâtisserie. Enfin, je suis tombée, j'étais dans une école privée qui est considérée comme une des meilleures de France. Et je suis tombée sur un chef qui est alcoolique et tout ça, un manager. L'école venait d'être rachetée. Et enfin, en fait, tout le parcours, ça a été que des expériences comme ça. Donc voilà, mais une fois, j'ai travaillé dans une pâtisserie à Versailles où il y avait pareil le patron et un chef. Donc c'est tous les deux chefs. Et donc le chef part en vacances. Et il me dit, quand je reviens, toi, tu pars pas. Et je fais, non, t'inquiète pas. Et donc à son retour, je lui fais, en fait, je donne ma démission. Il me fait, mais pourquoi? Il fait, l'année dernière, je pars en vacances. J'ai commis mon apprenti pendant 2 ans. Pendant 6 mois, il a plus du tout parlé au chef. Et il fait... Et là, toi, je reviens, tu pars. Je bats en fait le patron, sachant qu'il y avait sa femme qui était en boutique, a commencé à avoir des gestes un peu dévotés. Et donc moi, j'ai pas laissé passer. Et je lui dis, j'ai déjà porté plainte une fois, ça me dérangera pas de le faire une deuxième fois. Du coup, il a arrêté. Mais en fait, c'est tout le temps, comme si tout le temps, il fallait les remettre à leur place, comme si une femme, elle a pas le droit de parler de sexe, comme si fallait toujours surveiller tout ce qu'on parle. Mais non, en fait, on est des êtres humains, on est égaux, mais non, ça ils respectent pas.
Et aujourd'hui, être allé au bout de la procédure en portant plainte et aussi cette plainte qui a débouché sur un jugement correctionnel dont j'ai le document sous les yeux, est-ce qu'aujourd'hui, ça t'a donné le sentiment aussi que face à une injustice, il faut donc toujours parler, il faut donc toujours réagir et rappeler du coup ses droits?
Pour moi, oui. Déjà, quand j'ai porté plainte et tout ça... À l'époque, tout le monde me dit, mais ça va pas, faut pas faire ça, tu vas brûler ta carrière et tout. Et j'étais en mode, mais en fait, je m'en fiche. S'il y a d'autres filles, il faut le faire. Et à un moment, il faut que ça bouge. Et en fait, on est dans des systèmes où on nous dit, c'est normal. Non, en fait, c'est pas normal, faut que ça arrête. Le système, il doit changer. Et donc, moi, il y a, du coup, ouais, c'était pas il y a 5 ans, c'était il y a 6, 7 ans pratiquement. Autant déjà hyper avant-gardiste mais j'étais seule à le faire. Donc c'était compliqué. Aujourd'hui, il y a des comptes où on s'en suivit. Et au final, ça aboutit, j'ai eu de la chance. Et je dis, il faut parler parce que je pense que le fait que moi, j'en ai parlé, ça a peut-être abouti et tout ça. Peut-être aujourd'hui, il y a beaucoup plus de gens qui se disent, pour elle, ça a marché, donc je peux le faire. Et elle, ça a marché il y a 6-7 ans. Donc nous, aujourd'hui, en le faisant aujourd'hui, ça devrait fonctionner encore plus parce qu'il y a encore plus de ressources et on est encore plus écouté. Du coup, il faut à tout prix parler, il faut tout faire pour que ça bouge. Parce que on peut pas laisser comme ça. Enfin, moi, je me dis, si un jour j'ai une fille, mais enfin, le monde, il est atroce pour elle, quoi.
Et donc, ce que je peux lire dans l'extrait des minutes du greffe du tribunal, le document que tu as mis à ma disposition avant notre échange, c'est que le tribunal, après avoir délibéré, a statué en ces termes, donc, le chef de cuisine qui t'a agressé a commis, je cite, une atteinte sexuelle avec contrainte et surprise. Cette démarche-là, tu l'as faite également avec une autre stagiaire qui avait également été victime donc de cet agresseur. Clairement, tu l'as dit tout à l'heure, les choses auraient pu être évitées dès lors que les premiers incidents avec les autres stagiaires par le passé avaient été remontés. Pourquoi, selon toi, la RH a préféré garder cette personne en poste alors que justement on lui faisait remonter déjà des soucis avec d'autres stagiaires?
C'est remonté aux ressources humaines. Je ne sais pas si un jour ça va remonter aux ressources humaines. Mais en tout cas, dans un hôtel, ça parle, faut le savoir. Mais parce qu'il voulait protéger l'image de l'hôtel.
Là, d'ailleurs, on peut le dire, ton agresseur a été condamné à un emprisonnement de 5 mois avec sursis. Il a dû aussi te verser des dommages et intérêts pour préjudice moral. Toi, finalement, à quel point cette issue t'a aidé ou au contraire pas spécialement dans ta reconstruction?
Je crois qu'il m'a le plus aidée, c'est qu'il a reconnu les faits et qu'il s'est excusé. Et que déjà qu'il reconnaisse les faits, qu'il s'excuse direct, je pense que pour la reconstruction, c'est déjà énorme. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui vont reconnaître les faits. Lui, il les a reconnus direct. Il a pris un avocat, j'ai fait ça, c'est de la merde, je le reconnais.
Et aujourd'hui, qu'est-ce que tu aurais envie de voir exister pour que les choses aillent mieux? Est-ce que peut-être il y a des garde-fous qu'on peut mettre en place pour éviter que ce genre de choses arrivent?
C'est comme les féminicides, c'est comme les viols, c'est comme tout le reste. Faut éduquer les hommes, faut éduquer la population. Nous, à l'école, on nous l'a dit qu'on était dans un milieu où il y avait beaucoup de viols, beaucoup de violences. On nous l'avait dit, en fait. Mais je pense qu'on nous a pas expliqué les gestes de prévention. Quand je suis allée voir l'école pour parler de mon stage, ils n'étaient pas au courant qu'il y avait une agression sexuelle. Ils n'étaient même pas au courant.
L'agresseur de Caroline a finalement été condamné à 5 ans de prison avec sursis et 1 500 € de dommages. Aujourd'hui, avec des mouvements MeToo secouant différents secteurs, tels que le cinéma hollywoodien, le sport français ou l'industrie du jeu vidéo, c'est à chaque fois la somme des témoignages qui permet une prise de conscience sur l'extrême banalité du harcèlement moral et des agressions sexuelles. Alors que la cuisine était autrefois une voie de garage, elle est aujourd'hui perçue comme un métier passion. Mais métier passion, c'est un concept qui a bon dos. Sous couvert de passion, devrait-on accepter tout et n'importe quoi? Ne pas rechigner au risque de casser l'ambiance? Être une employée docile et ne pas faire de remous? Les deux témoignages que nous venons d'entendre montrent aussi la difficulté à être écoutée et soutenue par sa hiérarchie. En cause, une organisation du travail à flux tendu. Dans ce contexte où vie privée et vie professionnelle sont si souvent étroitement mêlées, il est facile de s'oublier. Cela, Zelika Dinga a voulu l'éviter. Après quelques années en cuisine, elle décide de devenir chef indépendante afin de travailler à son propre rythme et avec un salaire à la hauteur de ses efforts fournis. Celle qui a décidé de se mettre à son compte a lancé Caro Diario, une structure de catering. Ensemble, on a parlé des conditions physiques difficiles de ce métier, terreau propice aux abus.
Voilà, j'ai beaucoup aimé, j'ai beaucoup appris de pas mal d'expériences en cuisine, mais toujours avec l'impression d'avoir vraiment tiré sur la corde, d'avoir quitté des postes où j'avais perdu énormément de poids, où j'étais épuisée, où j'avais des réactions physiques, des douleurs, et où, en gros, t'as une ou deux journées off par semaine qui sont parfois pas consécutives, tu passes ton temps à dormir... oui, bien sûr, où tu te fais rabrouer de façon, enfin, tu vois, et en plus t'es avec, enfin, je sais pas, t'es entre adultes en fait. Il y a aussi une façon de communiquer qui est, enfin, j'allais dire très très paternelle en fait, où le chef il peut t'engueuler comme si c'était un père qui parlait à son ado. Et en fait, c'est quelque chose qui est difficilement acceptable en fait en dehors de la sphère professionnelle. Ou clairement, si moi quelqu'un me parlait comme ça dans la rue ou parmi mes proches, ce serait pas du tout recevable. Et là, il y a vraiment quelque chose de très pernicieux qui s'installe où petit à petit, tu vas te retrouver à. Enfin, t'avais accepté de donner ta main et tu finis par donner, plus que ton bras, quoi.
Est-ce que, à titre personnel, tu as déjà été victime ou témoin de racisme ou de sexisme en cuisine ?
Écoute, j'ai été témoin, non pas de sexisme, mais de petites blagues racistes. Oui, déjà de choses qui sont pas drôles en fait, mais que voilà, certains chefs se permettent parce que le chef en cuisine c'est un roi en son royaume, donc oui, c'est arrivé d'avoir du staff et notamment souvent les plongeurs qui sont d'origine africaine, d'Afrique subsaharienne ou bien qui peuvent être pakistanais, etc. Et voilà, d'avoir les chefs qui se moquent de leur accent, qui les diminuent. Donc ça, c'est un peu ça l'ambiance de la cuisine. C'est pas vraiment, ouais, ça peut être des ambiances où les gens sont plutôt rabaissés que encourager, porter, c'est pas forcément une émulation très très positive, quoi. Ça m'est arrivé pas mal de fois d'être dans des cuisines où les chefs se gargarisaient de ce type d'héritage, en fait. Tu vois, l'héritage presque militaire et viril de la cuisine, le côté il faut souffrir pour être belle, quoi. Genre, moi, j'ai appris en me mangeant des tartes, donc il n'y a pas de raison que toi, tu n'apprennes pas comme ça, tu vois. Enfin, je pense qu'il puisse exister d'autres méthodes de management ou d'autres types de pédagogie en cuisine. Et notamment, je reviens dessus parce que c'est devenu mon cheval de bataille et aussi parce que quand j'en discute avec des collègues qui sont encore en cuisine, le fait de passer autant de temps en cuisine, c'est clairement un problème. Je pense que si les équipes passaient plutôt 7 ou 8 heures au lieu de 12 ou 13 en cuisine, je crois que le climat serait vraiment amélioré. Et moi, j'ai du mal à comprendre l'archaïsme d'une profession qui pourtant revendique sa modernité et aussi des valeurs très humaines, de partage, de faire travailler des gens, des agriculteurs, etc., des producteurs qui font bien les choses, mais de voir qu'au sein de la cuisine, il y a une forme d'esclavage moderne. Enfin, on ne fait pas travailler des gens 12 ou 13 heures par jour, 5 heures par semaine. C'est la porte ouverte à n'importe quoi, je crois.
Et j'ai l'impression qu'on est passé de analyser les assiettes qu'on a au restaurant à se demander quels produits sont travaillés en amont, mais qu'on a fait ce chemin sans forcément passer par qui derrière la cuisine, là, enfin en cuisine, en arrière-cuisine, prépare les plats et comment et sous quelle modalité.
Ouais, absolument. Mais tu vois, c'est tout à fait juste. Et je crois que oui, in fine, c'est ça que j'ai essayé de dire. C'est vrai que tu as ces menus où tu vas voir les blettes de machin élevées là. Mais c'est sympa de savoir que c'est un tel qui les a transformés en cuisine et qu'un tel, il travaille 60 heures par semaine et qu'il est épuisé, en fait. Et je crois que ce serait bien d'avoir une cohérence un peu plus un peu plus globale sur sur cette volonté activiste, cette volonté de manger mieux, de faire du monde une meilleure place, mais comme tu le dis, sans oublier la cuisine interne et les employés. En fait, moi, je crois que vraiment le grand gagnant là de ce changement de cette nouvelle cuisine qui a eu lieu, c'est le client. Aujourd'hui à Paris, tu peux dîner super bien, entrée, plat, dessert, pour 40 euros, en mangeant des produits mais d'exception, cultivés très localement, avec une chaîne d'approvisionnement très vertueuse. Tout a été fait maison, les chefs font tout eux-mêmes, ils font leur jus de viande, ils fument leur poisson, ils font leur pain, Mais voilà, savoir que tout ça, ça a un coût et que le coût, bah oui, il est un peu caché dans le sous-sol de la cuisine, quoi.
Merci à Caroline Goetlé, Marion et Zelika Dinga d'avoir partagé avec nous leurs expériences et leurs analyses à propos du milieu de la restauration. Grâce à elles, nous avons entendu dans cet épisode comme le sentiment d'impunité des hommes en cuisine, le manque de prise de position de la hiérarchie face à des comportements intolérables, la précarité et les conditions de travail dégradées peuvent favoriser des situations de harcèlement moral et d'agression sexuelle. Et cela a pour conséquence très concrète de rendre hostile la profession aux femmes, et ce parfois dès l'apprentissage. Deux de nos invités ont choisi de travailler désormais à leur propre compte. Mais combien d'autres sont aujourd'hui en dépression et ont peut-être été contraintes d'abandonner le métier ? Alors que les chefs sont de véritables personnalités publiques, que leur présence médiatique n'ont désormais plus rien à envier à celle de célébrités de la chanson, que la gastronomie n'est plus seulement un art mais aussi une industrie florissante, que les arts de la table ne sont plus un ronflant centre d'intérêt mais suscitent toujours plus de reconversions professionnelles, il est temps de parler des choses qui fâchent en regardant aussi ce qu'il se passe en cuisine. De l'assiette servie en salle aux produits utilisés pour la préparation des plats, on demande désormais toujours plus de transparence. Mais c'est comme si on avait sauté une étape dans tout ça. Car entre le menu et le sourcing des ingrédients, il y a bien autre chose. Il y a les conditions de travail de celles et ceux qui sont dans l'unique endroit du restaurant où la lumière n'est plus délicatement tamisée, la cuisine. Si vous travaillez dans le milieu de la restauration et que vous êtes victime d'abus, n'hésitez pas à demander de l'aide. D'abord en alertant votre hiérarchie et les relations humaines de votre entreprise, ou encore en sollicitant un syndicat ou en faisant appel à un avocat si rien ne bouge. N'hésitez pas également à vous rapprocher de l'Association européenne contre les violences faites aux femmes au travail. Vous pouvez aussi procéder à un dépôt de plainte en ligne, sans vous déplacer au commissariat, et cela, une story du compte Instagram Jeudi Non Chef l'explique très bien. Sur ce même compte, vous trouverez d'ailleurs un questionnaire sur les violences en cuisine, porté par Camille Aumont-Carnel et Nora Boisoni. Un des objectifs de ce formulaire est de mesurer l'ampleur des violences en cuisine en France et réunir des plaintes groupées dénonçant la même personne. Et si vous souhaitez nous confier un témoignage, vous pouvez nous écrire à production@nouvellesecoutes.fr. Les violences en cuisine sont un sujet trop important pour qu'on ne les suive pas de près. On en reparlera donc toute l'année dans ce podcast. Bouffon est un podcast de nouvelles écoutes porté par moi, Émilie Istari, avec l'aide en coulisses de Laura Cuissard et les coups de main de Clara Maté. Montage par Ashley Tola, mixage par Thomas Decourt, générique réalisé par Aurore Meyer-Mailleux.